Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, le pape François a, au cours de l'audience générale du mercredi 26 juin, invité à ne pas rester indifférent face à la situation tragique de la toxicodépendance à la drogue qui touche des millions de personnes dans le monde. En fin de matinée du mercredi, le Saint-Père a reçu en audience un groupe de jeunes musulmans de Bologne, une occasion pour lui d'inviter les chrétiens et les musulmans, outre leur appartenance religieuse, à être des artisans de paix dans le monde. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en Côte d'Ivoire et au Tchad. Au Kenya, le bilan des personnes tuées et blessées lors des manifestations du mardi qui ont viré au chaos ne cesse de s'alourdir, alors que la population est appelée à manifester à nouveau jeudi, mais de manière pacifique, en mémoire des victimes. Nous y reviendrons dans l'actualité sociopolitique sur le continent qui nous conduira aussi en Guinée et au Burkina Faso. Et avant de conclure cette édition, nous accorderons la parole à Patricia Temuni, entrepreneur investi en République démocratique du Congo, à l'occasion de la journée des micro, petites et moyennes entreprises qui sera célébrée jeudi 27 juin. Ce sera tout pour les titres, les détails, dans un instant, dans cette édition.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Le mercredi 26 juin marque la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, avec pour thème « Investissez dans la prévention ». À cette occasion, le pape a, lors de l'audience générale du mercredi, centré sa catéchèse sur le trafic de drogue. Il a déploré les actions malveillantes des trafiquants de drogue, invitant également à s'appuyer sur la prévention pour lutter contre ce fléau. Myriam Sanduno.
Sono convinto che è moralmente doveroso porre fine alla produzione e al traffico di queste sostanze pericolose.
C'est un devoir moral de mettre fin à la production et au trafic de ces substances dangereuses, c'est ce que pense clairement François. Face à la situation tragique de toxicodépendance à la drogue qui touche des millions de personnes dans le monde et au scandale de la production illicite, le pape pointe du doigt les trafiquants de drogue. Combien de trafiquants de morts existent-ils, poussés par la logique du pouvoir et de l'argent à tout prix, a dit François. Le successeur de Pierre a tout de même invité chaque chrétien à prier pour leur conversion.
Sono criminali, sono assassini. Preghiamo per la loro conversione.
François se souvient encore de tant d'histoires tragiques de toxicodépendants et de leurs familles. Il a invité à aider ceux qui tombent dans l'esclavage de la drogue. « On ne réduira pas la toxicodépendance en libéralisant l'usage des drogues », a dit le pape. Et pour lutter contre ce fléau, il propose la prévention qui devrait passer par la promotion d'une plus grande justice en éduquant les jeunes aux valeurs qui construisent la vie personnelle et communautaire.
Educando i giovani ai valori che costruiscono la vita personale e comunitaria.
Et le Saint-Père a reçu en audience en fin de matinée au Vatican un groupe de jeunes musulmans de Bologne. En recevant cette délégation, le pape François a voulu mettre à profit ce moment de convivialité pour aborder un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la promotion du dialogue interreligieux. Pour le pape, l'harmonie entre les différentes communautés religieuses est la condition sine qua non pour une paix véritable dans le monde. En effet, a souligné François, Jésus nous a appris à nous accueillir les uns les autres comme des frères, et cela s'applique avant tout à nous, chrétiens, juifs et musulmans, qui adorons le Dieu unique, et à nous qui nous référons, bien que de manière différente, à Abraham comme père dans la foi. Le pape François a donc invité à promouvoir un dialogue sincère et respectueux entre chrétiens et musulmans, car étant un devoir pour ceux qui désirent obéir à la volonté de Dieu. L'Association des femmes de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, AFEC, a tenu du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2024 son 18e conseil national, au terme duquel a été installée la nouvelle équipe dirigeante. Présidant la messe de clôture à la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Daloa, Mgr Marcelin Yao Kwadio, l'ordinaire du lieu, a invité les nouveaux membres à la confiance et à travailler sans relâche à l'unité au sein de l'association. Plus de détails avec Marcel Ariston Blé.
Femme catholique, quelle est ma contribution pour vivre la synodalité dans mon église? Tel était le thème autour duquel s'est tenu du 21 au 23 juin 2024 le 18e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, couplé de l'installation de sa nouvelle présidente Jeanne Zabo et son bureau au centre d'accueil diocésain de Daloa. Président la messe de clôture de cette rencontre dimanche 23 juin à la cathédrale Christ Roi de l'Univers de Daloa, Monseigneur Marcelin Yaro-Kwadio, ordinaire du lieu, a appelé dans son homélie les membres à prendre toute leur part des souffrances dans l'annonce de l'Évangile. Et en ce jour où le bureau national va être mis en mission, l'évêque de Daloa les a ainsi invités à porter un double regard sur leur association.
En premier lieu, un regard rétrospectif pour évaluer le chemin parcouru en termes d'acquis, en termes de force, mais aussi en termes de faiblesse. Deuxièmement, un regard prospectif pour scruter les signes des temps.
S'adressant à la deuxième présidente de l'Association nationale des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Jeanne Zabo, et son bureau, le président de la conférence épiscopale ivoirienne, Mgr Marcelin Yaro-Kwadio, les a exhortés à ne pas avoir peur des défis qui les attendent. Investi pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois, Jeanne Zabo succède à Jeannette Touré après 13 ans de bons et loyaux services rendus à l'AFEC nationale. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Et rendons-nous à présent au Tchad, où la situation devient de plus en plus intenable depuis quelques jours dans les prisons. Dans celle de Klesoum N'Djamena, les prisonniers peinent à trouver à manger, faute du paiement des fournisseurs par les autorités. Notre correspondant sur place, Edouard Takadji, nous en donne les précisions.
C'est le constat fait par Seylou Dorsuma, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Tchad. Cette même situation s'observe également dans certaines provinces du Tchad, telles que le Mandoul. Seylou Dorsuma.
Rupture de stock de vivres. Les prisonniers n'étaient pas bien alimentés. C'est une situation générale. Nous avons recommandé au gouvernement de payer les fournisseurs d'abord, de libéraliser en plus le marché de fourniture de vivres. L'État doit impérativement payer les factures et demander à ce que d'autres fournisseurs aussi puissent livrer des vivres aux prisonniers dans les maisons d'arrêt.
Pour le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Tchad, les autorités tchadiennes doivent prendre leurs responsabilités en main afin de décanter cette situation. Seylou Dorsuma déplore également le surpeuplement carcéral dans cette maison d'arrêt de N'Djamena.
Une maison d'arrêt qui est construite pour 1200 places. Aujourd'hui, elle abrite 3200 prisonniers de toutes catégories confondues. Mais en réalité, les condamnés ne sont que 600 parmi les 3200. Il y a cette surpopulation que nous avons recommandé aux magistrats aussi de trier les cas qui nécessitent l'emprisonnement pour ne pas surcharger nos maisons d'arrêt, mais aussi que l'État doit respecter ses obligations conformément aux règles Nelson Mandela, qui exigent qu'un prisonnier doit être bien traité et se soigner pour que l'emprisonnement ne soit pas un péril pour lui.
N'Djamena, Edouard Takadji pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. Les Kenyans sont appelés à manifester à nouveau jeudi, mais de manière pacifique, en mémoire des victimes de la journée de mobilisation de mardi qui a fait au moins 22 morts, selon une association de médecins. Mardi soir, après une journée de chaos, de violence et de pillage dans la capitale Nairobi, le président William Ruto a affiché sa fermeté et assuré que la violence et l'anarchie seraient fermement réprimées. Depuis une semaine, en effet, la jeunesse se mobilise contre le projet de loi de finances publiques et les nouvelles taxes qu'il prévoit. Cette jeunesse est descendue par dizaines de milliers dans la rue, mardi dans plusieurs villes du pays. À Nairobi, la capitale, la manifestation s'est transformée en émeute. Faisons un retour sur cet événement avec le reportage de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
De premières échauffourées entre policiers et protestataires ont éclaté à la mi-journée dans le centre-ville de Nairobi. Puis dans l'après-midi, les manifestants sont rentrés dans le Parlement où les députés venaient de voter en faveur du projet de loi de finances publiques très contesté. Les manifestants ont forcé les barricades de police, certains en jetant des pierres. La police, elle, a tenté de contenir cette foule en tirant à balles réelles. La télévision kényane a diffusé des vidéos montrant plusieurs corps inanimés au sol. La police a depuis repris le contrôle de l'enceinte du Parlement. Des images montrent des salles saccagées avec du mobilier renversé. Un incendie a également été déclenché dans les bureaux du gouverneur de Nairobi à quelques rues du Parlement. Les manifestants, à très grande majorité des jeunes, étaient venus par dizaines de milliers et ont afflué toute la journée dans le centre-ville de la capitale malgré les tirs de gaz lacrymogène, de canons à eau et de balles en caoutchouc par la police. Au-delà de l'abandon de la loi de finances publiques, ils ont appelé à la démission du président William Ruto au son des sifflets et des vouvouzela. Beaucoup des étudiants notamment se distinguaient pour leur avenir. En fin de journée, ils étaient tous profondément choqués par la violence de la réponse policière. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
L'ancien chef d'état-major de l'armée guinéenne et ex-numéro 2 du régime au pouvoir est mort en détention des suites probables d'un traumatisme psychologique et d'un stress prolongé qui aurait causé un arrêt cardiaque, a annoncé la justice militaire mercredi. Le général Sadiba Koulibaly, second du général Mamadi Doumbouya lors d'un coup d'état de septembre 2021, avait été condamné le 14 juin à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes par un tribunal militaire. Il est décédé le 24 juin, a annoncé le parquet militaire dans un communiqué qui suggère qu'il avait auparavant été transféré à l'hôpital. Au Burkina Faso, le président malien Assimi Goïta était en visite mardi à Ouagadougou. Il s'agit d'une première visite dans ce pays, membre de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Niger et bien évidemment le Burkina Faso. Le colonel Assimi Goïta a rencontré son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Au centre des échanges, la lutte contre le terrorisme entre les deux pays, mais au-delà, toute l'Alliance. De Ouagadougou, le point avec notre correspondant Lamine Traoré.
Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a été accueilli à l'aéroport de Ouagadougou par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Un bref échange au salon présidentiel et direction le palais présidentiel. Un tête-à-tête entre les deux hommes, on le sait. Les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme ont été au centre des échanges. Et ses dirigeants sont bien conscients qu'il faut lutter contre ces fléaux dans la région. Le colonel Assimi Goïta.
Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes.
La visite du président Goïta a duré un peu plus de 3 heures au Burkina Faso. On se rappelle que le président de la transition du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, avait déjà été reçu par le colonel Assimi Goïta en novembre 2022, un mois après son coup d'état. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 27 juin, journée des micro, petites et moyennes entreprises, MPME en sigle, afin de sensibiliser le public à leur immense contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Selon l'ONU, les MPME représentent 90% des entreprises, 60 à 70% des emplois et 50% du PIB dans le monde. Elle constitue également une véritable colonne vertébrale des sociétés partout dans le monde et contribue aux économies locales et nationales et au maintien des moyens de subsistance, en particulier pour les travailleurs pauvres, les femmes, les jeunes et les groupes en situation de vulnérabilité. Que représente une telle journée et quelle est la grande contribution dans l'économie d'un pays comme la République démocratique du Congo? Des éléments de réponse avec Patricia Temouni, entrepreneur congolaise investie dans son pays à travers son entreprise African New Commerce International.
Pour moi, une journée comme celle-ci représente une forme de célébration sur l'apport conséquent et économique et social des petites et moyennes entreprises. C'est aussi un rappel pour nous qui sommes obligés de faire plus. C'est donc une journée importante à marquer d'un point fort.
Une journée importante à marquer d'un point fort. Dans quel domaine vous êtes précisément investi et à quels endroits?
Mon entreprise est basée principalement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est un cabinet de conseil qui se spécialise en fait dans l'accompagnement des entreprises à travers des processus de transformation complets. Nous assistons aussi les entreprises et les organisations dans leur croissance et nous travaillons également sur l'expertise humaine, donc dans le recrutement de personnel, la formation du personnel dans les entreprises.
Comment s'appelle votre entreprise?
Mon entreprise, c'est ANMI, c'est African New Commerce International.
Et vous assistez toute forme d'entreprise, toutes sortes d'entreprises confondues, c'est ça?
Oui, nous avons apporté un soutien à plusieurs entreprises dans différents domaines, notamment dans la distribution des supermarchés. Nous avons aussi travaillé dans la télécommunication avec des entreprises de la télécommunication. Et là, nous sommes en négociation avec certaines banques à Kinshasa.
Donc, vous êtes dans plusieurs domaines à la fois. Et selon les Nations Unies, les micro, petites et moyennes entreprises représentent 90% des entreprises, 60 à 70% des emplois et 50% du PIB dans le monde. Et elles constituent aussi une véritable colonne vertébrale des sociétés partout dans le monde. Elles contribuent aux économies locales et nationales, au maintien des moyens de subsistance, en particulier pour les travailleurs pauvres, les femmes, les jeunes et les groupes en situation de vulnérabilité. Comment pouvez-vous évaluer l'apport des micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie de votre pays, la RDC, où vous êtes vous-même investi?
En République démocratique du Congo, il est opportun de savoir que le travail informel est une norme. D'ailleurs, selon la Banque mondiale, le travail informel représente entre 82 et 90% de travailleurs indépendants. Et on compte les mamans du marché, les cordonniers, les couturières, les kiosques et les vendeurs ambulants. À Kinshasa, la capitale, un travailleur sur deux est recruté par une petite entreprise, une petite et une moyenne entreprise, ce qui représente à peu près 80% de la main-d'œuvre. Donc ces entreprises, elles ne sont pas uniquement des créatrices d'emplois, mais elles sont surtout un moteur de croissance pour l'économie et le développement social du Congo. Et dans la plupart des secteurs, elles contribuent à plus de 70% du produit intérieur brut, un chiffre qui pourrait atteindre les 80% selon certaines estimations.
Les 80%, vous êtes entrepreneur. Comment vous-même, vous participez donc au développement de votre pays à travers vos activités dans le concret, disons?
Ben, à partir de ce que je viens de dire, je contribue à donner de l'emploi. Je contribue au développement de mon pays à travers des conseils dans les grandes entreprises. Je contribue aussi en respectant les formalités, bien que ce soit encore beaucoup trop de tracasseries pour ouvrir une entreprise et pour la lancer. Mais par moment, on peut recevoir la visite des agents communaux qui viennent nous demander des taxes, etc., alors que l'entreprise vient à peine de commencer. Donc, nous contribuons comme ça, en faisant les choses au fur et à mesure et en ne baissant pas les bras, en tout cas.
Est-ce que vous avez du soutien dans vos initiatives?
Des soutiens privés, oui. Un encadrement pour le démarrage de mon entreprise, oui. J'ai eu la chance d'être bien entourée et d'avoir des personnes qui m'ont conseillé et qui m'ont accompagnée dans les débuts.
Une subvention de l'État?
Non. En général, il est difficile d'avoir un soutien des institutions au Congo. Elles apportent pas trop d'appui aux petites entreprises, à moins de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait vous aider par rapport à une certaine aide. Mais bon, non, je n'ai pas eu de soutien de l'État.
Et autre ce qui constitue un défi, vous l'avez souligné tout à l'heure, quels sont d'autres défis auxquels vous êtes confrontés dans vos initiatives?
Alors, on a plusieurs défis. Au Congo, il faut savoir qu'on a plusieurs fonds. Il y a des fonds qui existent, hein, des fonds de garantie de l'entrepreneuriat et des institutions qui ont été établies pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Mais ces institutions, à mon avis, sont encore dans le formel. Je pense que en créant des petites entités, comme des incubateurs pour aller à l'approche et en cherchant les jeunes entrepreneurs qui ont de bonnes idées, ça pourrait former et ça pourrait inciter les jeunes à avoir plus de courage, à prendre plus de courage, à formaliser leurs entreprises et à travailler plus dans la formalité, en tout cas au Congo.
Vous venez de suivre Patricia Temoni, entrepreneur congolaise investie en République démocratique du Congo à travers son entreprise African New Commerce International, interrogée par Stanislas Kambashi.
Aide toi aussi le pape à aider. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo-di-san-pietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambe qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.